Bonjour, bienvenue à la conférence de l'UIA. Donc cette conférence a été annulée le jeudi 23 mars en raison du mouvement social, mais nous avons eu la possibilité, grâce au service communication, et de pouvoir la filmer. Je les remercie beaucoup pour cette possibilité. Nous recevons donc aujourd'hui Monsieur Legube. Bonjour Monsieur Legube.
Bonjour.
Je rappellerai que vous êtes professeur émérite de l'Université de Poitiers, vous êtes spécialiste en physico-chimie des eaux et du traitement des eaux. Vous avez participé à de nombreuses publications, dont deux ouvrages récents concernant l'analyse de l'eau et la production d'eau potable. Vous vous intéressez actuellement à l'impact du changement climatique sur la qualité des eaux naturelles, notamment dans votre mission de président du conseil scientifique de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Vous êtes également donc au comité scientifique régional sur le changement climatique qui s'appelle Aclimatera. Et vous êtes membre du laboratoire de l'Université de Poitiers lycée 2MP, donc l'Institut de chimie des milieux des matériaux de Poitiers. Vous êtes directeur honoraire de l'école d'ingénieurs de l'Université de Poitiers, l'ENSI Poitiers. Nous vous recevons aujourd'hui pour nous parler du sixième rapport du GIEC dont nous venons de recevoir une version simplifiée dans la semaine, hein, mais vous y êtes penché dès l'année dernière sur la version de fond complète, et donc je vais vous laisser la parole pour nous parler de ce rapport. Merci.
Merci Monsieur Moreau, merci Mesdames, Messieurs, je fais comme si vous étiez présents dans la salle. Donc comme vous le savez, aujourd'hui c'est une journée un peu particulière, Samuel Moreau l'a rappelé pour ce qui concerne les manifestations, mais c'est aussi la journée mondiale de l'eau, et c'est aussi deux jours après ou trois jours après la sortie du rapport de synthèse, du sixième rapport du GIEC. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, évidemment, je ne suis pas climatologue, vous l'avez vu dans l'énoncé de mon CV, mais je suis scientifique, et je m'intéresse au changement climatique, comme tout le monde d'ailleurs, depuis beaucoup d'années, nombreuses années, par mes activités secondaires qui ont été présentées tout à l'heure. Donc, j'ai étudié les rapports et j'ai essayé de vous faire aujourd'hui une conférence qui est quand même assez complète dans le domaine des données. Donc je vais un peu roder cette conférence, tout compte fait, en espérant que vous pourrez suivre la plupart de ce que je vais vous présenter. Toutefois, comme c'est enregistré, vous pourrez éventuellement vous arrêter sur une diapositive pour la lire un peu plus en détail, bien évidemment. Alors, première chose, quelques références, mais je ne les présente pas. Je vais simplement citer les références complètes sur lesquels je me suis appuyé, donc les sources, qu'elles soient du GIEC, qu'elles soient du CITEPA, qui est un organisme français qui travaille sur la pollution atmosphérique, ou qu'elles soient d'autres sources. Donc évidemment, je ne les répéterai pas au fur et à mesure de l'exposé. Par contre, vous verrez parfois inscrit dans le coin haut à droite, source GIEC 1. Source GIEC 1, il faudra se reporter à cette référence si vous voulez en savoir un peu plus. Donc parlons un petit peu du GIEC, s'il vous plaît, avant, c'est-à-dire le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, que les Anglais appellent International Panel on Climate Change, IPCC. Alors, ce groupe a été mis en place en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale et Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, avec une mission non pas de faire des recherches, mais une mission d'évaluer les bases scientifiques publiées, bien sûr, sur le changement climatique, ses risques, ses impacts, ses conséquences, ainsi que les options pour l'atténuation, bien évidemment, et l'adaptation à celui-ci. Donc, globalement, c'est plusieurs centaines de scientifiques qui sont regroupés, provenant du monde entier, hein, et aussi des administratifs, bien sûr, qui sont regroupés en tant qu'auteurs, contributeurs, relecteurs. En France, on en a plusieurs, hein. Je ne sais pas tous décompter, Mais les plus connus qu'on voit sur les médias, c'est Valérie Masson-Delmotte de Paris-Saclay, qui a d'ailleurs coordonné le volume 1, je parlais tout à l'heure des volumes, Christophe Cassou de Paul Sabatier Toulouse, qu'on rencontre souvent, qu'on voit souvent à la télévision. Je sais Hervé Le Treut aussi, même s'il n'est plus dans le groupe depuis la fin du cinquième rapport, qui est de Sorbonne Université, mais parce qu'il préside Acclimatera, dont parlait Samuel Moreau tout à l'heure. Alors, toujours sur le GIEC, et j'arrête ici sur le GIEC, il y a eu 5 rapports précédemment publiés, le premier en 1990, l'avant-dernier en 2013-2014, ce qu'on appelait le cinquième rapport, bien sûr, le sixième rapport qui a été publié, les premiers documents sortis en fin 2020, début 2021, comprend 3 volumes principaux. Je vous ai mis une copie de la couverture du volume 1, qui correspondent à des groupes d'experts. Le WG1, qui est le Working Group 1 sur le constat scientifique, WG2 sur les risques et l'adaptation, sur le WG3 sur l'atténuation. Alors, pour chacun de ces rapports qui sont hyper complets, puisqu'ils font 2000 à 3000 pages, nous avons des résumés, pour les décideurs, des résumés de 50-60 pages, et puis la synthèse globale dont on parlait tout à l'heure, qui a été publiée le 20 mars 2023, que je n'ai même pas eu le temps de regarder d'ailleurs, mais comme le disait Samuel Moreau, j'ai suffisamment étudié, je pense, les rapports. Alors, première partie, état actuel du climat. La deuxième partie, je parlerai du futur possible du climat, et la troisième partie, je parlerai de l'atténuation, en fait. Alors, en conclusion, un petit peu des politiques et du coût, des politiques stratégiques en termes d'atténuation du climat. Alors, je démarrerai tous mes chapitres, enfin sauf la conclusion, par des messages clés pour que vous entriez bien dans le contexte avant de vous inonder, excusez-moi le terme, par des exemples qui illustrent ces messages clés. Alors commençons par les messages concernant l'état actuel du climat. Je m'excuse auprès de ceux qui avaient écouté ma conférence sur eau et changement climatique, parce qu'il y a quelques diapos forcément qui sont identiques, notamment sur les messages clés. Premier message. Sur la hausse des températures moyennes, que l'on constate? Alors, le GIEC prend toujours comme référence la période de la fin du 19e siècle, les 50 dernières années du 19e siècle, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire 1850-1900. Donc, par rapport à cette période de référence, en 2011-2020, c'est-à-dire les 10 dernières années où on a des données, le réchauffement est en moyenne de plus 1,1 degré. Exactement plus 1,09, ce que disent toutes les médias actuellement, d'ailleurs, notamment suite à la sortie de la synthèse. Mais attention, c'est un réchauffement global, planétaire. Ça veut dire déjà que si on déconnecte les continents des océans, eh bien sur les continents, c'est plus 1,6 degré, alors que sur les océans, c'est plus 0,9 degré. J'arrondis les chiffres que vous avez à la projection. Ce changement climatique impacte toutes les régions habitées du monde. Alors évidemment, ça va dépendre des régions. Si, par exemple, en France métropolitaine, je vous montrerai des valeurs tout à l'heure, le réchauffement constaté sur la même période au niveau de la surface du sol, donc hors océan, est supérieur à plus 2 degrés et est encore plus élevé dans les villes. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, c'est que c'est un fait établi et sans équivoque que le réchauffement climatique, atmosphère, océan, terre, etc., est dû aux activités humaines qui émettent trop de gaz à effet de serre. Alors, en fait, si on regarde bien dans le détail, sur le plus 1,09 degré, il y a 1,07 qui sont liés aux gaz à effet de serre, et puis il y a 0,2 degré qui sont des phénomènes naturels, notamment volcaniques et autres. Donc, ça, c'était sûr, et c'est un deuxième message, que c'est un fait établi sans équivoque, et que le climat des générations actuelles et futures vont connaître, enfin, que les générations actuelles et futures vont connaître, dépendra donc des émissions de GES à venir. Un troisième message concerne les océans et glaciers. Le niveau moyen de la mer à l'échelle planétaire s'est élevé de 20 cm entre le début du XXe siècle et 2018, dernière donnée que nous avons, avec un rythme qui s'est accéléré. Ce rythme est le plus rapide depuis au moins 3000 ans. Enfin, évidemment, il y a d'autres impacts météorologiques. Les épisodes de chaleur extrême, on le constate, qui se produisent de plus en plus fréquemment sur les zones terrestres depuis les années 1950. Les accroissements des précipitations intenses et des périodes de sécheresse, alors que le cumul de précipitations a peu évolué, comme on va le voir tout à l'heure. Enfin, un dernier message, avant de passer dans les exemples, et de rentrer des choses un peu plus illustrées. Au cours de la période de 1850 à 2019, on estime qu'on a rejeté dans l'atmosphère 2390 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Donc, des gigatonnes. Alors, pour vous donner une idée, je vous expliquerai plus tard ce que c'est qu'un CO2 équivalent. Parlons de GES pour le moment, de gaz à effet de serre. Pour vous donner une idée, une tonne d'équivalent pétrole pour du gazole ou de l'essence, parce qu'on traduit ça en tonnes équivalent pétrole, produisent 3 tonnes de CO2. Donc, ça vous donne une idée des gigatonnes. Il n'y a pas que le pétrole qui produit des gaz à effet de serre, mais ça vous donne une idée des gigatonnes de pétrole qui ont été utilisées pour produire 2390 gigatonnes de CO2 dans le monde, bien évidemment. Les concentrations atmosphériques de CO2 sont-elles aujourd'hui dans l'atmosphère? C'est les plus hautes depuis au moins 2 millions d'années, d'après ce qu'on connaît, ou ce qu'on est capable d'avoir comme données. Celles de méthane et de protoxyde d'azote, qui sont d'autres gaz à effet de serre, sont les plus élevées depuis au moins 800 000 ans. Alors, regardons sur quoi les experts du GIEC s'appuient pour donner ces messages que je vous ai donnés, ces messages clés. Alors d'abord, si on regarde la température moyenne par rapport à la référence 1850-1900 jusqu'à aujourd'hui 2020. Alors sur cette figure, vous avez en noir la courbe observée. Alors vous voyez peut-être pas très bien distinguer, peut-être pas très bien le noir du marron, mais la courbe observée, c'est-à-dire ce qu'on mesure. Depuis, j'essaie de mettre ma flèche dessus là. Depuis les années 1850. Donc vous voyez cette augmentation de température qui va jusqu'environ à plus 1,1 degré. Sachant que la température moyenne de la planète est de 14,8 degrés, ça veut dire que la température moyenne de la planète est passée, tout compte fait, à 15,9 degrés entre 1850 et 2001. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que la courbe marron avec ce nuage marron ou beige que vous avez autour, c'est la simulation. Et que la simulation qu'avaient fait les experts il y a quelques années correspond exactement à l'observation. Et la deuxième chose intéressante, c'est que si nous n'avions pas les gaz à effet de serre, la simulation qui est la courbe bleu-vert presque horizontale, traduit le fait que la température moyenne de la planète n'aurait pas augmenté. Alors si on remonte un peu plus haut, c'est-à-dire si on regarde sur l'ère chrétienne, c'est-à-dire entre le an 1, on va dire, et aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a pas eu depuis 2000 ans de réchauffement aussi important. Alors soit il y a quelques dixièmes de degrés, 0,1, 0,2, dans la période entre juste après le début de l'ère du Christ jusqu'à à peu près 1500, avant que ça redescende un petit peu jusqu'en 1850 pour éclater ensuite dans les 100 dernières années, le siècle dernier. Mais il n'y a pas eu de réchauffement de ce type-là depuis 2000 ans. Et si je remonte encore avant, c'est-à-dire que si je vais voir la paléoclimatologie, tout compte fait. Alors attention là aux échelles, parce que vous avez complètement à gauche 60 millions d'années, c'est-à-dire juste après l'extinction des dinosaures, vous voyez qu'on avait une température sur Terre, alors mesurée principalement dans les roches, enfin par des mesures d'air à l'époque bloquées dans les roches, ou dans certains sédiments, qui était de l'ordre de plus 15 degrés par rapport à la ligne pointillée. La ligne pointillée, c'est le 14,8. Hein. Alors c'est 0, parce que c'est des écarts qui sont traduits sur l'échelle des abscisses, sur l'échelle verticale, pardon, mais ça correspondait donc à une température de 14,8 degrés, moyenne plus 15, hein, c'est-à-dire quasiment plus 30 degrés. Première chose, il a fallu dizaines de millions d'années avant de retrouver, alors ça c'était dû aux phénomènes qui ont fait disparaître les dinosaures, notamment le bombardement de météorites qui ont dû provoquer des concentrations de gaz à effet de serre énormes dans l'atmosphère, ce qui s'est traduit par des augmentations de température aussi grandes. Et puis ensuite, vous arrivez il y a un million d'années, une température à peu près voisine d'aujourd'hui, celle qu'on connaît aujourd'hui à peu près, suivie d'une période de la période glaciaire, vous voyez, entre les 800 000, le million de dernières années, où la température était oscillée entre la température actuelle et une température moins 5 degrés, voire un peu au-dessous, évidemment, quand on est dans une période glaciaire. Puis après, vous avez sur la période droite, la période d'aujourd'hui, de 20 000 ans à aujourd'hui, avec les projections dont je vais parler tout à l'heure, sur le futur climat, et vous voyez qu'il y a une projection, je rentre pas dans le détail là, parce qu'on va entendre en détail tout à l'heure, une future projection qui va jusqu'à, tout compte fait, une température telle que celle que la Terre a connue après la fin des dinosaures. Espérons évidemment qu'on n'arrivera pas à cette température-là, sinon on n'y survivra pas, bien évidemment. Donc tout ça pour dire que on n'a pas connu l'augmentation de température de plus 1,1 degré, qui est le petit pointillé que l'on voit ici, voilà, ici, avant un million d'années, tout compte fait. Il faut remonter à des époques, évidemment, paléontologiques très, très, très retardées, même si elles sont courtes à l'échelle de la durée de la vie de la planète. Alors, ils disent oui, mais ça, c'est la planète. Maintenant, pour ce qui nous concerne, nous. Alors, tout d'abord, là, je regarde l'Europe. Alors, le GIEC a découpé la planète, enfin, a découpé la planète, vous me comprenez, la map monde, on va dire, en 46 zones, à peu près, plus une dizaine de zones océaniques. 46 zones continentales, une dizaine de zones océaniques. Alors, ici, vous avez à gauche l'augmentation des températures observées. Alors, sur ces 46 zones, vous avez des zones européennes, il y en a 4. NEU, c'est l'Europe du Nord. EEU, c'est l'Europe de l'Est. WCE, c'est l'Europe de l'Ouest et centrale. Et MED, c'est l'Europe méditerranéenne, qui s'étend un petit peu d'ailleurs sur l'Afrique. Donc, si je regarde notre zone, c'est-à-dire la partie française, allemande, britannique, peut-être de l'Europe de l'Ouest et centrale, bah vous voyez que on a pris de l'ordre de 0,4 degrés par décade entre, attention, parce que là, la référence est 1980 à 2015, donc entre 1980 et 2015, ça fait 25 ans, oui, c'est ça. 35 ans, excusez-moi. Donc, en 35 ans, on a pris à peu près 3 fois et demi les 0,4. Vous voyez, ça fait de l'ordre de 1,5 degré, à peu près, entre 1980 et 2015. Il faut ajouter ce qu'on avait pris comme augmentation de température entre 1850 et 1980, c'est-à-dire 0,6 degrés facilement. Donc, c'est significatif. Et il y a des régions de l'Europe où c'est pire, vous voyez les couleurs. De l'autre côté, vous avez, à droite, vous avez la carte des précipitations. Sauf que là, il y a des petites croix partout. Les petites croix signifient que c'est pas significant, ça veut dire que c'est pas, on n'est pas sûr. Les gammes d'erreurs sont telles que on n'est pas sûr de ce qu'on affiche. Ce qui veut dire que, en fait, dans cette zone-là, il y a un petit peu de vert clair. Chez nous, il y a un petit peu de jaune clair. Ça veut dire qu'il y a eu quasiment pas d'évolution du cumul annuel de précipitations, avec une toute petite diminution sur la France, une petite augmentation sur l'Angleterre, sur l'Espagne, un peu plus grosse augmentation sur l'Italie, c'est ce qu'on observe. Donc, on part du principe, en général, nos experts, que l'évolution des précipitations entre 1980 et 2015 a été très faible. Côté français, je peux vous présenter cette courbe. Alors là, qui part de 1900, mais attention, avec une période de référence qui est 1990. Vous voyez cette période qui sert de référence, pour laquelle on a dit c'est zéro. En fait, c'était pas zéro, c'était 11,5 degrés de température moyenne en France, France métropolitaine. Je mets pas les dom-toms dans cette moyenne-là. Enfin, c'est Météo France, c'est pas moi. Et l'écart que vous avez en plus, c'est rouge. Que vous avez en moins, c'est bleu. Donc, on voit que entre cette période de référence de 1961-90, donc de 30 ans, jusqu'à aujourd'hui en 2020, on a plus 2,3 degrés, ce qui est énorme. Si on ajoute les 0,5 degrés qui ont été aussi gagnés entre qui ont été ajoutés entre 1900 et la période de référence. Donc, vous voyez, on n'est plus dans le 1,09 degrés dont je parlais tout à l'heure. On est plutôt, au niveau français, sur des périodes, des augmentations de température qui sont de l'ordre de 2,8 degrés. Nouvelle-Aquitaine, c'est pareil. Alors, bon, je commande pas pour gagner un petit peu de temps, mais vous pourrez regarder cette courbe en détail. C'est la même période de référence, mais ça ne part que de 1960. Mais l'intérêt, c'est qu'on a aussi la moyenne glissante. Poitiers-Biard, c'est pareil. Si on regarde à l'intérieur de Poitiers, Intramuros, les données qu'on a depuis 1922... On est passé de 10,1 degrés de valeur moyenne annuelle à 13,2 degrés, hein, c'est-à-dire on a pris 3,1 degrés, tout compte fait. Bordeaux, c'est encore pire, on a pris 3,8 degrés. Donc, c'est un constat, évidemment. En plus, on voit bien que le constat moyen et global que vous donnent les médias quand ils parlent du réchauffement global planétaire n'est pas forcément applicable directement à la France, encore plus à Nouvelle-Aquitaine, puisque le réchauffement est encore plus important chez nous. Ça, c'est une courbe des précipitations en Nouvelle-Aquitaine. Vous la regarderez aussi tranquillement. Il y a une légère diminution. Alors, le 100, c'est l'équivalent du 0 sur les diapos d'avant, c'est-à-dire c'est une référence qui correspond à peu près à 956 mm par an de pluviométrie en Nouvelle-Aquitaine. Le vert, c'est ce qui est en plus, les années où on a un peu plus. Le marron, c'est les années où on a un peu moins. Donc, on voit quand même qu'on a une légère diminution, mais pas autant, évidemment, que ce qu'on a connu, que ce qu'on connaît actuellement en 2022-2023. Alors, comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Diapo que j'ai présenté aussi lors d'une conférence précédente. Alors, quelques précisions sur le climat de la planète. Alors, vous voyez le Soleil qui est à peu près à, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que 150 millions de kilomètres de la Terre, nous envoie évidemment principalement la chaleur nécessaire pour la planète. Il se trouve que c'est comme ça dans l'espace. Une partie du rayonnement solaire est réfléchie par... Alors, la Terre, vous avez la surface, bien sûr. Vous avez l'atmosphère également, qui fait à peu près 50 kilomètres. Hein, troposphère, plus près de la surface de la Terre, et puis stratosphère au-dessus. Donc, c'est disproportionné sur ce schéma du CNRS, l'épaisseur de l'atmosphère par rapport de la Terre. Mais c'est quand même pour mieux la montrer. Donc, dans cette atmosphère, vous avez de la vapeur d'eau, vous avez évidemment de l'oxygène, de l'azote, vous avez des gaz à effet de serre, comme du CO2, qui sont des gaz à effet de serre naturels. J'y reviendrai. Donc, le fait que cette atmosphère sorte d'espèces de chapeaux, d'espèces de serres, fait qu'il y a une partie de l'énergie solaire qui repart vers l'espace, hein, 30% qui est réfléchie par l'atmosphère, l'océan et les sols, qui repart vers... Il n'y a donc que 70% qui arrive sur la Terre. C'est la partie en jaune que vous avez ici. Donc, si on n'avait que ça, la température sur Terre serait, en moyenne, ne serait pas de plus 15 degrés, comme j'ai dit tout à l'heure, plus 14,8, mais serait de moins 18 degrés. Donc, il n'y aurait aucune vie possible, puisqu'on n'aurait pas d'eau liquide ou pas suffisamment dans l'année puisqu'une température moyenne à moins 18, vous comprenez bien que ça veut dire des températures à moins 50, moins 100, peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi vraiment à la question. Le phénomène, qui, Dieu merci, est présent sur Terre, sur cette planète, c'est qu'une grande partie de l'énergie absorbée par la Terre est renvoyée sous forme d'infrarouge vers l'atmosphère. C'est la partie rouge à droite. Et 90% de cette chaleur est absorbée, qui est réévacuée par la Terre, est absorbée par l'atmosphère. Il y a 10% qui s'en va dans l'espace. Donc ces 90% absorbés par l'atmosphère fait l'effet d'une serre. Hein, comme une serre sur, évidemment, un plant de tomate ou des plants de tomate ou autres cultures. Donc, cette chaleur revient sur Terre pour réchauffer à nouveau les océans et la surface de la Terre, ce qui nous permet d'avoir une température moyenne de plus 15 degrés, plus 14,8 exactement. Donc il est évident que si on augmente, alors vive les gaz à effet de serre, vous allez me dire, ceux qui sont naturellement présents dans l'atmosphère, dont la vapeur d'eau. Mais évidemment, si on touche un peu trop à cette composition, et si on augmente la concentration en gaz à effet de serre, ben, on va augmenter cet effet, on va donc augmenter la température. Alors, là aussi, c'est une diapo que j'ai déjà présentée, c'est Christophe Cassou, qui est membre du GIEC, actuellement auteur du 6e rapport, ou contributeur, qui me l'a passé. Donc, comme vous le voyez, ici, la concentration en CO2, je parle de CO2, et non pas de gaz à effet de serre, mais le CO2 est le gaz à effet de serre majoritaire. Concentration en CO2 dans l'atmosphère de notre planète en 1900, à peu près, était de 300 ppm. Aujourd'hui, on est à 411 ppm. Quand je dis aujourd'hui, ça c'était en septembre 2020. En octobre 2022, on était à 415 ppm. C'est-à-dire que malgré le Covid, où il y a eu une stabilisation, on est en train de réaugmenter. Donc ça, c'est mesuré par une station internationale de mesure du CO2 en atmosphère. C'est une valeur moyenne, bien sûr. Et si je regarde ce qui s'est passé sur les 800 000 dernières années, par l'analyse des glaces, alors également une illustration qui m'a été fournie par Christophe Cassou, et ben comme vous le voyez, la valeur en ppm de CO2, donc je vous ai pas expliqué ce que c'est que des ppm, c'est des parties par million, mais peu importe l'unité, on peut juger en relatif, était autour de 280 à peu près aux pointes, au pic de cette courbe, hein, parce que dans les creux on avait des périodes glaciaires. Aujourd'hui, on est, vous voyez la loupe, qui en fait, en grossissant, donne l'image que je vous ai présentée juste avant. Aujourd'hui, on est bien au-dessus, donc sur des valeurs qu'on n'a pas observées depuis 2 millions d'années sur Terre. Même si ce graphe ici ne reporte que sur 800 000 années. Dans le détail, ça c'est une figure du rapport du GIEC. Un peu compliqué à expliquer. Alors, complètement à gauche, vous avez... alors, il s'agit là d'augmentation de température au niveau planétaire. Complètement à gauche, vous avez le 1,09 degré, avec la petite moustache, ce qu'on appelle la moustache, c'est la petite barre verticale, qui donne les écarts type, à 95% et 5%, je pense. 95e centile et 5e centile, c'est comme ça qu'on s'exprime en statistique, sur l'histogramme gris. Puis après, sur celui du milieu, ça décompose un peu, parce qu'il n'y a pas que les gaz à effet de serre comme rôle de l'activité humaine qui interviennent sur le climat. Alors ça décompose un peu. Alors la première barre rouge au milieu, pas au milieu, pardon, sur la figure du milieu, la première barre rouge à gauche répète la barre grise que vous avez complètement à gauche. La deuxième, qui correspond à 1,5 degré, vous donne l'effet des gaz à effet de serre. S'il n'y avait que les gaz à effet de serre tout seuls en termes d'activité humaine, ou d'impact de l'activité humaine sur le climat, ça serait plus 1,5 degré et non pas plus 1,09 degré. En bleu, à côté, vous avez les autres effets humains qui sont négatifs, c'est-à-dire qui compensent tout compte fait, l'action des GES, des gaz à effet de serre. Puis après, vous avez, à l'épaisseur du trait, les effets volcaniques, donc des effets plus naturels, on va dire, solaires, volcaniques, et la, ce qu'on appelle la variabilité interne. En climatologie, c'est un petit peu plus difficile à expliquer, mais bon, s'il y avait des questions, mais je ne vais pas trop perdre de temps, et en plus, comme je vous le disais, je ne suis pas trop climatologue non plus, donc je ne veux pas dire de bêtises. Sur la figure de droite, vous avez le détail. C'est-à-dire, parmi les gaz à effet de serre, alors je ne vais pas tout prendre, hein, mais c'est pour vous. Vous pouvez utiliser cette illustration et passer un petit peu de temps dessus. Dans les gaz à effet de serre, vous avez le CO2, donc dioxyde de carbone, vous avez le CH4, donc le méthane, vous avez le N2O, protoxyde d'azote, vous avez les gaz fluorés, qu'on appelle encore GF, vous avez les autres oxydes d'azote, qui, eux, interviennent en négatif, et vous avez le carbone organique volatile et le carbone organique d'une manière générale. Donc, tout ça, c'est les gaz à effet de serre. Quand vous combinez tout ça, vous arrivez à l'effet plus 1,5 degré. Ensuite, vous avez les autres effets humains, qui sont les aérosols, qui vont empêcher, si vous voulez, le soleil, qui vont nuire à la pénétration du soleil dans la première phase de réchauffement de la Terre. Donc, il y a les oxydes de soufre, il y a le carbone organique, il y a l'ammoniac, il y a le carbone minéral, mais qui intervient dans l'autre sens. Ça, c'est ce qu'on appelle les aérosols humains. Mais il n'y a pas que les aérosols, parce que vous avez aussi la réflexion des sols et l'irrigation donc qui a évolué, évidemment, depuis 1850, donc qui vient faire un effet un petit peu négatif. Hein, et puis vous avez aussi les traînées d'avion qui fait un petit effet positif sur la température. Quand vous cumulez tout ça, cette partie aérosol humain, traînée d'avion et réflexion, vous arrivez aux autres effets humains qui sont en négatif à peu près à 0,4, vous voyez à moins 0,4 sur la figure du milieu. Donc, globalement, c'était pour vous donner un détail. Alors maintenant, pour regarder globalement ce qu'il en est en termes d'évolution. Là aussi, c'est une figure extraite du rapport du GIEC. Donc, il s'agit des gaz à effet de serre émis en totalité. Hein, CO2 équivalent, je vais vous expliquer ce que c'est que CO2 équivalent, depuis 1990 par année dans le monde. Et vous avez à droite 2019. Donc, en 1990, vous voyez, on émettait 38 gigatonnes dans l'année. En 2019, je parle du monde, on émet 59 gigatonnes. Donc, on a une évolution évidente. D'accord ? Alors, la part la plus importante, c'est le CO2 émis de l'utilisation des énergies fossiles et de l'utilisation et émis par l'énergie, par l'industrie, pardon, ce que les experts du GIEC appellent CO2 FFI, 64%. Au-dessus, vous avez le CO2 émis et piégé, donc c'est un CO2 net par l'utilisation des sols, donc l'agriculture et les forêts. C'est-à-dire que là, il y a le CO2 émis par l'agriculture, notamment, mais diminué de celui qui est absorbé par les forêts. C'est ce que j'appelle le CO2 LUCF dans le rapport GIEC. Au-dessus, vous avez le méthane. Alors, le méthane paraît très important, ainsi que le protoxyde d'azote, par rapport aux concentrations qu'il y a réellement dans l'atmosphère, parce que c'est là qu'intervient l'équivalent CO2. C'est-à-dire le méthane a un pouvoir de réchauffement global qui est 28 fois plus élevé que le CO2. C'est-à-dire qu'une tonne de méthane, si vous voulez, ça va correspondre à 28 tonnes de CO2 équivalent. Quant au protoxyde d'azote, N2O, il a un pouvoir de réchauffement global de 270 fois plus élevé que le CO2. Donc une tonne de protoxyde d'azote va correspondre à 270 tonnes de CO2 équivalent, en fait. Quant au gaz fluoré, le rapport est encore plus grand, parce que pour certains gaz fluorés, on a 10 000 fois plus de pouvoir de réchauffement. Donc, quand on parle de CO2 équivalent, si vous voulez, on additionne tout. C'est-à-dire, le CO2 réellement sensu stricto, émis ou piégé, piégé, donc c'est du négatif, puis le méthane en équivalent CO2, le protoxyde de soude en équivalent CO2, et le gaz fluoré en équivalent CO2. Alors, pardon, toujours sur ce 59 gigatonnes, on peut se dire, mais qui émet ça? Ben, vous voyez, dans le petit carré en bas à gauche, en 2019, c'est l'Asie de l'Est, avec la Chine, qui émet 27% de ces 59 gigatonnes. L'Amérique du Nord, USA, Canada, 12%. Et pour donner d'autres chiffres, l'Afrique, 9%, l'Europe, 8%. Mais si je raisonne en cumul de 1850 à 2019, c'est-à-dire les 2390 gigatonnes qu'on a émis pendant cette période de 120 ans, plus, qu'est-ce que j'ai, 170 ans, bien qu'entre 1850 et 1900, il n'y a pas eu beaucoup d'émissions, ben vous voyez que c'était l'Amérique du Nord, ne tenez pas compte des couleurs, parce que c'est un peu plus compliqué après à expliquer, l'Amérique du Nord qui est responsable à 23%, puis l'Europe à 16%, que l'Asie de l'Est, dont la Chine, n'arrive qu'à 12%, et l'Afrique n'arrive qu'à 7%, notamment. Une autre façon d'exploiter, c'est de ramener au nombre d'habitants. Alors, je reprends là 2019. Hein, je sors des cumuls et je me restitue en 2019. Ben, en 2019, un Nord-Américain, comme vous le voyez, ne tenez pas compte des couleurs, c'est le premier histogramme, émet 18 tonnes. Non pas des gigas, évidemment, puisque c'est par habitant. 18 tonnes de CO2 équivalent par habitant. Un Chinois au niveau d'Eastern Asia, voilà, émet quelque chose comme 12 tonnes. Mais c'est vrai qu'il y a une population très grande. Un Indien qui est sous Eastern Asia émet quelque chose comme 3 tonnes à peu près. Et un Européen, 8 tonnes. 8 tonnes, un Français, c'est à peu près 4 tonnes. Entre 4 et 5 tonnes. Un Allemand, c'est un peu plus de 8 tonnes. Par habitant. D'accord, par habitant et par an, bien sûr. Donc, c'est très variable et il est important d'avoir ces chiffres quelque part, je dirais pas en tête. Bon. Donc ça, c'est mondial. Maintenant, si je regarde l'Europe, l'Union européenne, avec ses 27 États, on est passé en 1990 de... alors, il s'agit de mégatonnes. Là. Donc, si vous voulez traduire en gigatonnes, c'est 4,8 gigatonnes. 4,9, on va dire, gigatonnes. Donc, 4871 mégatonnes de CO2 équivalent en 1990 à 3610 mégatonnes. C'est quand même 25% de diminution en l'espace de 30 ans. Mais c'est pas assez. Par rapport aux objectifs dont je parlerai à la fin, et qu'on se fixe, si on va pas plus vite que ça, il y en a pour jusqu'en l'année 2300 d'arriver à zéro d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est principalement la partie utilisation d'énergie, la partie jaune, qui est productrice de gaz à effet de serre. Vous avez le détail dans le petit camembert derrière qui vous donne en termes d'utilisation d'énergie la partie liée au résidentiel, tertiel, au chauffage, donc à l'industrie manufacturière, au transport, etc. Puis dessous, le jaune, vous avez en beige les procédés industriels, sensu stricto, c'est-à-dire hors consommation d'énergie. Puis en vert, vous avez l'agriculture et en violet, vous avez les déchets. En France, on émettait 544 mégatonnes, à comparer donc avec les 4871 mégatonnes de l'Europe, en 1990. Et nous aussi, nous avons diminué, puisqu'on n'est qu'à 436 mégatonnes de CO2. Alors pareil, surtout l'énergie et l'utilisation de l'énergie, aussi un peu plus pour l'agriculture, pour ce qui nous concerne. Mais là encore, la diminution n'est pas suffisamment importante. Alors, bon, j'ai mis aussi, mais je passe pour gagner du temps, j'ai mis aussi les données que nous avons sur la région Nouvelle-Aquitaine. c'est-à-dire 51,6 mégatonnes de CO2 par CO2 équivalent par année. Hein. C'était en 2015. Bon, les données sont un petit peu anciennes, mais ça correspond à peu près à 1/9 des émissions en France. On en fait un petit peu plus sur l'agriculture, la forêt, la pêche que le moyenne nationale, et un peu moins sur le total industrie et déchets, un petit peu plus aussi sur le total transport et sur le total bâtiment que la moyenne française. Première partie terminée. Ça, c'était le constat. En termes de température, d'évolution de température, et c'était le constat également en termes de bilan mondial, par habitant, par pays, même si je suis allé un peu vite, au niveau de l'Europe et au niveau de la France. Alors maintenant, que dit le GIEC sur, sixième rapport, parce qu'il y a un moment qu'ils le disent, sur le futur possible du climat sur la planète et l'Europe. Je vous dirai un petit mot sur la France après. Comme tout à l'heure, je commence par des messages clés. Avant d'illustrer. Premier message clé sur la hausse des températures moyennes. Eh bien, la température moyenne globale de la planète continuera à augmenter. On ne s'arrêtera pas à 1,09 degré. 1,09 degré. Quel que soit le scénario d'émission de gaz à effet de serre, même si on arrête aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre, la température continuera à augmenter jusqu'en 2050, minimum. Alors maintenant, suivant les scénarios que je vais présenter ensuite, si on a un scénario de hausse intermédiaire des gaz à effet de serre, il est extrêmement probable pour la planète que le seuil de plus de 2 degrés soit dépassé au cours du XXIe siècle. En France métropolitaine, dans le même scénario vertueux, parce que le scénario de hausse intermédiaire, on peut l'appeler un scénario vertueux, il est très probable que le réchauffement en France de la surface terrestre atteigne plus 3 degrés avant 2100, voire, à mon avis, plus rapidement, quand on regarde les évolutions des courbes, souvenez-vous du plus 2,3 tout à l'heure. Qu'on peut déjà transformer en plus 2,8 si on se rapporte à 1850-1900. Dans un scénario de très forte hausse d'émissions des gaz à effet de serre, comme celui qu'on a connu avant le Covid, et qu'on commence à reprendre, sans politique climat internationale en plus, efficace, toutes ces valeurs sont doublées à minima. C'est pas la peine d'y penser. Sur l'océan et les glaciers, on pense que on a beaucoup d'incertitudes. On pense que le niveau de la mer peut s'élever au mieux de 0,3 mètres d'ici 2100, au pire, 1 mètre. On pense même qu'en 2300, on pourrait avoir 15 mètres d'élévation du niveau de la mer. C'est pas exclu. Alors, sans compter, évidemment, la fonte de la banquise et le dégel du pergisol. Alors, comment le GIEC aborde cette question, notamment dans le cadre du sixième rapport. Alors, le GIEC a mis en place des scénarios socio-économiques partagés, ou des parcours socio-économiques partagés, ce qu'on appelle le SSP, Shared Socio-Economic Pathway. Il y en a à peu près 8 ou 9, je ne sais plus le chiffre exact en tête, mais il y en a que 5 qui sont exploités aujourd'hui. Le SSPX, alors le X c'est le numéro du scénario socio-économique, ça va de 1 à 5, et Y, c'est le niveau de forçage radiatif, c'est-à-dire ce que provoque en termes de changement climatique, les effets de gaz à effet de serre, en watts supplémentaires par mètre carré sur la surface de la planète. Alors pourquoi on a mis ce deuxième chiffre Y? Pourquoi ils ont mis ce deuxième Y? Parce que dans le cinquième rapport, on ne parlait pas de scénario SSP, on parlait de scénario RCP. Par exemple, RCP 2.6 voulait dire niveau de forçage radiatif 2,6 watts par mètre carré. Donc en plus, là, on a ajouté un numéro de scénario socio-économique. Alors ces scénarios s'appuient à la fois sur ce qu'on fait, sur ce qu'on produit, bien sûr, de GES, mais aussi ce qu'on fait comme, alors que ce soit dans les bâtiments, dans les villes ou dans les transports, comme vous le voyez, ou l'agriculture, comme vous voyez sur les photos, mais aussi, ou la forêt, évidemment, mais aussi ce qu'on fait comme solution d'atténuation, comme les panneaux photovoltaïques que vous voyez en bas à droite. Donc, ça tient compte de toutes ces trajectoires politico-économiques, en fait. Alors, il y a le SSP1 pour X égale 1, 1,9 pour Y égale 1,9 watts par mètre carré, dit de durabilité, qui correspond à maximum 1,5 degré C de réchauffement global. Chez WL, ça veut dire Global Weather Level, c'est-à-dire le réchauffement global de la planète. Je passe. Le scénario SPP1 2,6, qui est aussi un scénario de durabilité, mais avec un maximum qui conduit à un maximum de plus de degrés d'augmentation de température globale sur la planète. Le SSP2 4,5, dit intermédiaire, avec plus 3, vous avez compris. Le SSP3 7, dit de concurrence régionale, donc avec 7 watts par mètre carré, qui conduit avec à un scénario de plus 3,6 d'augmentation de la température globale de la planète. Le SSP4 n'est pas encore complètement chiffré dans le sixième rapport, ça viendra un septième rapport. Et le SSP5 8.5, c'est vraiment développement intensif d'énergie fossile, tel qu'on le fait actuellement, production de GES tel qu'on le fait actuellement, avec une augmentation de température moyenne de plus 4,4 degrés. Donc, à ces scénarios, si vous voulez, correspondent des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, alors vous avez les gigatonnes de CO2 par an en fonction des années, de 2015 à 2100. Donc si on prend, par exemple, on va prendre deux scénarios. Le scénario SSP1 2,6, qui est celui sur lequel s'appuyait l'accord de Paris et la COP21, vous voyez que la courbe de dioxyde de carbone CO2 sur la figure de gauche part de 40 gigatonnes par an, c'est ce qu'on produit actuellement, je parle de CO2, tout à l'heure je dis 59, mais c'était CO2 équivalent, avec le méthane et le protoxyde d'azote, et cette courbe diminue, commence à diminuer vers 2020-2025 à peu près, pour aller jusqu'à zéro, voire négative, avant 2100. C'est cette courbe-là qui nous permettra de ne pas dépasser les plus 2 degrés. Alors vous voyez, au-dessous, vous avez encore un scénario plus optimiste. Et évidemment, si je prends après le 8,5, qui est tout à fait en haut, qui est le plus pessimiste, eh bien, dans ce scénario-là, socio-économique, il correspond à des émissions de CO2 qui passent de 40 gigatonnes actuellement à plus de 120, 130 gigatonnes d'ici la fin du siècle. D'accord ? Alors vous avez les mêmes courbes pour le méthane. Je vous rappelle qu'il y a un facteur 27,9, je crois, donc 28 à peu près entre les deux, et le protoxyde d'azote qui doit avoir un facteur de 273 exactement. Je regardais sur mon ordinateur. Donc ça, c'est les scénarios en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est de ça que partent les experts du GIEC. Après, il y a des climatologues qui traduisent ces scénarios qui expriment des gigatonnes en température. Voilà le résumé que je peux vous en donner. C'est-à-dire une augmentation de température par rapport à la période de référence toujours utilisée par le GIEC pour la température globale de la planète, qui est la référence 1850-1900. Donc vous voyez par exemple que si je prends le SSP1-2,6, c'est-à-dire deuxième figure à partir de la gauche, eh bien, on va avoir une augmentation de température qui avoisine, alors après ça dépend de la moustache, les plus de degrés, dont, ça, c'est la barre, la première barre c'est le GES Globo, la deuxième c'est le CO2, la troisième c'est les autres GES, et puis la quatrième petite barre, c'est les aérosols et utilisation de sol. Donc, alors que si je prends le SSP585, qui est donc complètement à droite diapo, je vais avoir une augmentation, comme j'ai déjà dit, de plus 4,4 degrés en moyenne, avec la contribution du CO2, des autres GES et des aérosols et utilisation de sol. Donc, ces climatologues, si vous voulez, traduisent les scénarios que font les économistes en termes de production de gaz à effet de serre, en degrés de température sur la planète. Alors après, il faut aller décliner sur les différentes zones de la planète et décliner sur les différents secteurs, la montagne, la mer, l'océan, la pêche, l'agriculture, les ressources en eau, etc., etc. Alors globalement, si vous voulez, vous pourrez regarder ces cartes tranquillement, elles sont très faciles à comprendre. La carte de gauche, c'est dans l'hypothèse d'une augmentation de plus 1,5 degré global. Je vous rappelle qu'on est à plus 1,1 degré. La carte du milieu, plus 2. La carte de droite, plus 4. Hein, dans l'hypothèse, on décline après comment l'augmentation se répartit, la température, sur le globe. Il faut regarder évidemment l'échelle du bas, et si vous regardez, si vous focalisez un petit peu sur la France, ben vous allez voir, ou sur l'Europe de l'Ouest, vous allez voir qu'en fait, ça augmente de... voilà, on est plutôt vers les plus... quand il y a 2 degrés d'augmentation globale de la planète, on est plutôt sur les 2,5, 3 chez nous, si j'ose dire, pour... Alors évidemment, s'il y a plus 4 degrés d'augmentation globale, ça monte plus. Mais vous voyez aussi que les zones des pôles sont plus exposés en termes de réchauffement que les zones de l'équateur, par exemple. Et en bas, vous avez les précipitations. Alors, c'est plus compliqué à regarder, mais je vous ai mis, et à expliquer, mais je vous ai mis ces cartes pour que vous voyez un petit peu, que vous ayez cette possibilité, plutôt que d'aller fouiller dans les rapports du GIEC, qui sont quand même très très lourds à regarder. Alors, je terminerai par, pour l'Europe et la planète, je terminerai par ces courbes que j'ai retracées moi-même, parce que c'était vraiment trop compliqué à lire sur le rapport du GIEC, sur l'Europe. Et là, j'ai choisi, je vous ai rappelé sur la figure du bas, les quatre zones européennes, hein, Europe du Nord, ici, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest et continentale, et Méditerranée. Et zone méditerranéenne. Et là, j'ai choisi l'Europe de l'Ouest. Sur les courbes que vous avez au-dessus, je choisis l'Europe de l'Ouest. Et le sixième rapport du GIEC donne ce qu'on appelle un atlas interactif. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans l'atlas interactif et aller chercher pour la zone européenne qui vous intéresse les données. Et comment, qu'est-ce qui est prévu en termes d'augmentation de température ou diminution d'ailleurs, en termes d'augmentation de précipitation ou de diminution, sur la zone qui vous intéresse, suivant que le réchauffement global est de plus 1, 5, je parle de la planète là, plus 2, plus 3 ou plus 4. Donc par exemple ici, pour illustrer, je vais prendre ce qui est entouré, pour un réchauffement global de plus 1,5 degré sur la planète, eh bien on va avoir... Comme vous le voyez ici, c'est pas très pratique. Voilà. On va avoir, pour le WCE, c'est-à-dire pour l'Europe de l'Ouest et continentale, un réchauffement global de à peu près, un réchauffement de 1,2, 1,3 degrés. Alors, les grandes barres, faut regarder le rond, hein, le point, les grandes barres représentent, la barre verticale représente le plus ou moins. C'est-à-dire que ce plus 1,2 degré est compris, en fait, entre plus 0,1, vous voyez, et plus 2. Mais attention, ça, regardez bien, la titre de la diapo, le GIEC a tracé ça pour avoir une comparaison par rapport à la période qu'il considère comme étant juste presque d'aujourd'hui, un petit peu avant aujourd'hui, il y a 10 ans. 10-20 ans, 1995-2014. Donc si on veut ramener ça à 1850-1900, vous avez la compensation qui apparaît en bas à gauche de la figure. Il faut ajouter à nouveau 1,2 degré. C'est-à-dire que pour une température globale, une augmentation de température globale de 1,5 degré sur la planète, eh ben, en Europe de l'Ouest, on va avoir 1,3 plus 1,2, c'est-à-dire qu'on va avoir plus 2,5 d'augmentation de température. Vous avez la même chose avec la ligne horizontale sur les pluies, en pourcentage ou en d'augmentation ou en pourcentage de diminution. Donc je commande pas, vous pourrez prendre le temps de regarder ça si vous le souhaitez, mais on voit bien qu'en décembre, janvier, février, on va plutôt avoir des augmentations de pluviométrie qui sont prévues, quel que soit le scénario de réchauffement global, plus 1,5, plus 2, plus 3 ou plus 4, alors qu'en juin, juillet, août, on aura évidemment plutôt des diminutions de précipitations. Ça veut dire que quand il pleuvra beaucoup, et que sur des périodes courtes, et quand il pleuvra pas beaucoup, et ça sur des périodes probablement plus longues. En France métropolitaine, bon, écoutez, je passe parce que j'ai pris déjà beaucoup de temps. Vous pourrez regarder ce tableau. Vous avez dans ce tableau les projections, qui ont été faites par Gildas Daillon, un doctorant de l'Université de Toulouse, mais qui date déjà de 2015, et puis que je viens d'encadrer là, et qui porte et sur la période d'hiver et sur la période d'été. C'est pour ça que vous avez deux chiffres. Vous avez à droite les prévisions de Météo France qui sont plus récentes, de 2020, qui ont été faites en 2020, mais que j'ai corrigées parce que Gildas Daillon, sa période de référence, c'était 1961-1990, alors que Météo France, période de référence, est 1976-2005. Vous voyez les difficultés, d'ailleurs. Hein, on n'a jamais les mêmes périodes de référence d'un auteur à un autre. Enfin, pas toujours. Donc j'ai corrigé pour que vous puissiez comparer les augmentations prévues de température. Alors, si je prends par exemple la ligne RCP 4.5. RCP 4.5, c'est parce qu'ils ont utilisé le cinquième rapport du GIEC et pas le sixième rapport. Donc dans le cinquième, il n'y avait pas les SSP XY, mais il y avait les RCP Y, tout compte fait. Donc RCP 4.5, eh ben, Gildas Daillon, lui, prévoit pour le milieu du 21e siècle plus 1,5 degrés en hiver, en France, et plus 2,8 degrés en été, en France, et Météo France, pour l'année, c'est-à-dire hiver, été, printemps, automne réunis, prévoit plus 2,3 degrés, c'est-à-dire quelque chose qui, tout compte fait, est compris entre les prévisions de Gildas Daillon. Moi, je dis qu'aujourd'hui, ces prévisions sont déjà dépassées. Et qu'on a un emballement du climat, la preuve, c'est que si je vous représente à nouveau l'évolution des températures en France métropolitaine, par rapport à la période de référence 1961-1990, la même période que celle choisie par Gildas Daillon, ou celle que j'ai utilisée pour corriger les valeurs de Drias, de Météo France, pardon, bah vous voyez qu'on est déjà à plus 2,3 degrés, alors qu'on n'est qu'en 2020. On n'est pas au milieu du siècle. Donc, les prévisions qui étaient faites dans les années 2010 sont déjà fausses. Et fausses par défaut. Ça veut dire que le système s'est emballé plus que prévu. Alors, vous pourrez trouver aussi des nombres de jours anormalement chauds. Hein, c'est publié par Météo France, le rapport Drias. Vous avez la référence en début de diaporama. On peut voir hein, sur l'horizon moyen 2041-2070, ça c'est le RCP 4.5, c'est-à-dire le modèle un peu transitoire, on va dire, des SSP, aujourd'hui du sixième rapport, et ben vous voyez qu'on est sur près d'un mois de plus de jours anormalement chauds, pas sur toute la France, mais sur la partie centrale et est. Alors évidemment, si on regarde l'horizon lointain, on est à 2 ou 3 mois de jours anormalement chauds en plus. On peut aussi regarder en termes de littoral. Eh ben là, vous avez des sources venant de l'Agence européenne, des données venant de l'Agence européenne de l'environnement. Vous voyez sur la carte à droite que à la fin du siècle, dans le scénario, alors là, ils ont choisi le scénario le pire, 8.5, eh ben, on aura de l'eau de mer jusqu'à Niort. Très fréquemment inondée, en bleu pâle, et d'une manière un peu plus accidentellement, mais possible, bleuement inondée, en bleu foncé, bah, comme par exemple quand on a une tempête, comme la tempête Xynthia. Alors d'autres effets, évidemment, je ne pouvais pas éviter de parler de ça. Il s'agit des débits des rivières. Hein, on sait aujourd'hui que cette étude est basée sur le cinquième rapport du GIEC, donc ils sont en train de retravailler le groupe Explore, qui sont des hydrogéologues français. Ils sont en train de travailler sur le sixième rapport pour sortir une nouvelle carte. Mais vous voyez, toutes ces pointes, ces triangles avec des pointes en bas, signifient des diminutions de débit, et plus c'est rouge, plus la diminution des débits de cours d'eau moyen annuel hein, est importante, puisqu'on peut atteindre jusqu'à 50-60% dans certaines zones du sud-ouest, principalement, puisque sud-est, comme vous le voyez, est un peu moins impacté, grâce à l'apport des Alpes, ou sur le bassin parisien, par exemple. Donc, il y aura plein d'effets comme ça, et je vous conseille d'ailleurs, pour avoir une idée sur ces effets multiples, notamment sur la région Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire sur la santé également, sur l'agriculture, l'élevage, viticulture, modification du littoral, on vient d'en parler, disponibilité des ressources en eau, on vient d'en parler, la qualité des milieux, hein, que ce soit l'eau, l'air et le sol, la biodiversité, les forêts, les territoires urbains, production d'énergie, etc. Je vous conseille de consulter les ouvrages de Climatera. Comme le disait M. Moreau tout à l'heure, j'ai participé à la rédaction de ces ouvrages. Je n'étais pas tout seul, bien évidemment, puisqu'on était au moins 300 contributeurs, une sorte de petit GIEC, si vous voulez, régional, avec un certain nombre de rédacteurs, un certain nombre de contributeurs, un certain nombre de relecteurs, comme fonctionne le GIEC, et vous pouvez les consulter gratuitement sur Internet. Dernière partie de mon exposé, donc atténuation. Je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que, oui, atténuation du changement climatique. Alors, c'est pas des messages clés, c'est plutôt des définitions. L'atténuation, d'après l'accord de Paris signé en 2015, est de maintenir l'augmentation de température planétaire globale au-dessous des plus de 2 degrés d'ici la fin 2100. Et essayer de poursuivre les efforts en vue d'une limitation à plus 1,5 degré. Le deuxième, c'est d'atteindre le pic mondial des émissions de GES aussi vite que possible. Et le troisième, c'est de parvenir à zéro émission nette d'ici la fin du siècle. L'adaptation, elle, par contre, consiste à toutes les actions et décisions organisées et spontanées, renforçant la capacité des pays à s'adapter, à faire face aux événements du changement climatique qui arriveront quoi qu'il arrive. Alors, très rapidement, les messages clés quand même, du troisième volume du sixième rapport du GIEC. Je vous rappelle qu'on a émis en 2010, sur la période 2010-2019, on a des émissions mondiales de GES qui ont atteint leur plus haut niveau historique et qui continuent. On estime que à chaque fois qu'il y a un millier de gigatonnes d'émissions de CO2 équivalent, on a une hausse du réchauffement global de plus 0,45 degrés. Donc, continuer les émissions de GES au rythme actuel conduira à des bouleversements très importants, plus rapides qu'aujourd'hui, qui affecteront toutes les régions du monde, et qu'il est donc nécessaire d'atteindre au niveau mondial le zéro émission nette de CO2 le plus rapidement possible. Plus concrètement, pour avoir une chance significative de limiter le réchauffement global à plus 1,5 degré, il faut que les émissions de GES diminuent à partir de 2025, que niveau zéro soit atteint en 2050. On a un budget carbone qui nous reste, qui n'est que de 500 gigatonnes. Autrement dit, et ce budget sera dépassé en 2033, au rythme actuel où on va. Donc on n'arrivera pas à limiter le chauffement global planétaire à plus 1,5. Pour avoir une chance sur deux de limiter le réchauffement global à plus 2, et bien pareil, il faut que le niveau zéro d'émissions nettes soit atteint en 2070 et le budget carbone qui nous reste de 1350 gigatonnes de CO2. Au rythme actuel, ce budget sera dépassé en 2058. On peut y arriver. Il le faut. Tous les autres scénarios, évidemment, impliquent, tous ces scénarios impliquent des réductions des émissions de gaz à effet de serre très rapides, importantes, immédiates, dans tous les secteurs, et sans mesures politiques plus ambitieuses que celles prises en 2020, on n'y arrivera pas. Et on tendra plutôt vers plus 3,2 degrés. Alors comment faire? Dans chaque secteur, alors c'est pareil, je ne vais pas trop passer de temps, je vous laisse lire ça tranquillement. Dans le secteur de la production d'énergie, il faut faire des transformations majeures. On sait arrêter l'utilisation des combustibles fossiles, surtout quand il n'y a pas de capture de CO2 lors de leur utilisation. Transition vers des sources d'énergie à très faible, zéro de carbone. Et l'efficacité de la conservation énergétique, l'en perdre le moins possible quand on en produit. Et puis évidemment, mettre en place le solaire, l'éolien, etc. Donc ces énergies renouvelables. Je vous ai mis d'ailleurs ici des prix d'aujourd'hui, du coût du mégawatt-heure en dollars US pour le photovoltaïque, l'éolien terrestre, l'éolien en mer, et l'énergie solaire, par rapport à l'énergie fossile, qui est la barre grise que vous avez dans le bas, qui évidemment dépend des pays et dépend d'un certain nombre de circonstances, notamment économiques. Et je vous ai mis aussi le prix du nucléaire en termes de mégawatt-heure également. Pour l'industrie, c'est possible, même si ça représente un défi, d'avoir une neutralité carbone. Je passe là-dessus parce qu'évidemment, ça dépend des secteurs industriels. Pour les transports, il faut soutenir le passage à des modes de transport plus économes. Alors, évidemment, c'est l'électrique pour les petits transports terrestres, on va dire. C'est des biocarburants durables et hydrogène à faible émission pour le transport maritime, l'aviation et les transports terrestres lourds. Sachant qu'il y aura en plus une amélioration de la qualité de l'air avec un effet sur la santé. Je vous ai mis ici, effectivement, aussi le prix la chute des prix des batteries pour véhicules électriques personnels, même si ça reste encore élevé en termes de dollars US en kilowattheure, par kilowattheure. Pour les zones urbaines, il faut une plus grande efficacité des ressources et de la réduction des émissions sur les infrastructures et formes urbaines existantes, réduire la consommation d'énergie et des matériaux, parce que les matériaux, lors de la fabrication, consomment de l'énergie, bien sûr, électrifier les transports, améliorer l'absorption du stockage du carbone dans l'environnement urbain, ce qui n'est pas évident. Dans le secteur du bâtiment, que ce soit résidentiel ou tertiaire, qui est donc un secteur très émetteur de CO2, hein, 12 gigatonnes, quand même, sur les 59, d'émissions directes sur le site et indirectes, parce que la production de chaleur et de matériaux en hors-site pour chauffer les bâtiments. Donc là, il y a des politiques peu ambitieuses, augmentent le risque d'enfermer les bâtiments dans un système à forte émission de CO2. Il faut donc mettre en place des systèmes qui atténuent énormément la consommation d'énergie avec une possibilité de tendre vers zéro en 2050. Zéro émission de gaz à effet de serre, pas zéro énergie. Dans le secteur agricole, là aussi, agriculture, forêt, utilisation des terres, il y a beaucoup de choses à faire. Là aussi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous pourrez retrouver ça dans les rapports, même si c'est un peu compliqué. Il y a surtout de nombreux go-bénéfices en termes de production d'énergie, à partir de la biomasse, en termes de matériaux, hein, à partir de la biomasse aussi. Et puis, il y a effectivement aussi le puits de carbone, l'augmentation du puits de carbone. Il faut bien sûr aussi qu'il y ait des changements socioculturels dans les comportements. accepter le fait que le changement climatique nous arrive et que ça sera bien plus dur que certaines réformes dont je ne parlerai pas à faire passer auprès des gens. Il faudra aussi lutter contre les inégalités, bien sûr, faire de l'éducation. On aura besoin de capacités institutionnelles et réglementaires en termes d'innovation, de financement, de gouvernance. Il faudra également développer le sens de la solidarité, de la collaboration, la réduction des inégalités, formation, éducation, la recherche et les innovations, y compris dans les technologies pour éliminer le carbone, parce que il suffira peut-être pas de ne plus émettre de gaz à effet de serre en émissions nettes, mais il faudra peut-être aussi aller chercher le carbone qui est le CO2 qui est dans l'atmosphère pour le piéger, afin de retrouver un équilibre climatique correct. Alors, en conclusion, quelle politique climatique, quel coût? Évidemment, je ne vais pas faire une conclusion, puisque de tout ce que je viens de dire, puisqu'il y avait les messages clés en tête de chaque chapitre, qui étaient des sortes de conclusions. Donc j'ai plutôt orienté ma conclusion vers, pourquoi pas, une éventuelle conférence supplémentaire dans ce sens-là, qui est sur, alors que je ne ferai pas moi, mais que peuvent faire des collègues économistes ou juristes à moi, quelle politique au niveau mondial? Je vous rappelle que 59 gigatonnes par année actuellement, on n'a pas les données sur 2020, 2021, 2022, mais enfin j'ai regardé, 1er septembre 2022, on avait une concentration en CO2 dans l'atmosphère qui était encore plus forte que celle qu'on avait en septembre 2020, et ça malgré les années Covid. 415 au lieu de 411, est-ce qu'on tend vers un plateau, est-ce qu'on tend vers un pic? On ne peut pas le dire. En Union européenne et en France, l'Union européenne se positionne comme un modèle. Et c'est pour ça, dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'elle a affiché en 2013 une volonté de réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre de moins 38 mégatonnes, qui a été réajustée en 2018, après l'accord de Paris, à moins 48 mégatonnes. C'est pareil, la France ambitionne une réduction de 40% en 2030 par rapport à 1990, un petit peu de marge quand même, et une neutralité carbone en 2050. Et on s'est doté d'un certain nombre d'outils. Mais ce rythme n'est pas suffisant. Il faut faire rapidement plus. Je vous disais tout à l'heure que les réductions de gigatonnes de gaz à effet de serre qu'on mesure depuis 1990 jusqu'en 2019, si on continue à ce rythme-là, on arrivera à zéro en 2300. Donc évidemment, ce qui est beaucoup trop loin. Je passe là-dessus. Alors, en termes de coûts, ce que dit le GIEC, c'est tout ce qui coûte, en termes d'atténuation, moins ou égal à $100 US par tonne de CO2. Tonne de CO2 à éliminer, bien sûr. Pourrait réduire les émissions mondiales de GES d'au moins moitié du niveau de 2019 d'ici 2030. Donc déjà, ça, c'est peut-être des choses qu'il faut, et le GIEC ajoute, le bénéfice mondial de la limitation du réchauffement à plus de degrés est probablement supérieur au coût que l'atténuation va générer. Et ça, c'est donné dans la plupart des publications. Alors maintenant, si on regarde des chiffres un peu plus anciens, comme les données de New Climate Economy 2014, on le dit, voilà, faut à peu près 5 400 milliards de dollars US par an pour arriver aux objectifs qui sont affichés dans le cadre du GIEC. Et actuellement, il n'y en a que, vous le voyez, un dixième, un peu plus d'un dixième, qui est produit par la finance. Donc ce qui est faible par rapport à ce que la finance produit, par exemple pour les gaz, pour les énergies fossiles. On estime que pour atteindre un scénario plus de degrés, il nous faudra 5 400 milliards. C'est ce que je viens de dire. Donc je m'arrêterai là. Ça pourrait faire l'objet de conférences supplémentaires. Il faut laisser un peu les économistes réfléchir un peu à cette question, avec tous les effets socio-économiques qu'il y a derrière, en termes d'arrêt d'activité, de transformation d'activité, de changement de métier, d'accroissement ou de diminution du chômage, suivant que les gens veulent changer de métier ou pas, d'adaptation par rapport à nos consommations, Je vous remercie pour votre attention et bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un message, même si je ne vous ai pas mis mon mail, si vous avez des questions particulières à ce sujet. Merci bien.
Merci Monsieur Legube pour cette conférence, pour cette intervention qui fait écho à l'actualité. On a pu voir effectivement que les prévisions du GIEC sont peut-être un peu encore au-delà de ce qu'on avait prévu au départ et que c'est un peu inquiétant, mais on voit qu'il y a quand même de l'espoir et des solutions avec toutes ces solutions que vous présentiez là à moins de 100 $. Cela nous a permis de mieux comprendre et de pouvoir être au cœur de l'actualité. Je vous invite donc à nous retrouver pour les conférences de l'UIA, soit en amphi dès la semaine prochaine, soit en vidéo, puisque nous allons avoir encore un certain nombre de conférences qui vont être filmées par le service audiovisuel de l'Université de Poitiers, dont je remercie, je les remercie encore pour la retransmission et l'enregistrement de cette conférence. Merci, au revoir.